France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Aujourd'hui, trois récits qui prennent leur source dans un drame intime. Un deuil, une disparition, une fracture, mais qui s'élargissent pour interroger la mémoire familiale, la justice et la manière dont on survit aux blessures.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
D'abord, Justine Lévy qui publie Une drôle de peine chez Stock. 20 ans après la mort de sa mère, elle mène une enquête intime sur cette femme insaisissable. Le récit nous plonge dans une enfance chaotique des années 70, marquée par une liberté sans joie, les drogues et la négligence d'une mère à la fois sublime et autodestructrice. Dans ce livre, la narratrice cherche à se construire en se débattant avec ce souvenir écrasant, tout en reconnaissant leurs troublantes et douloureuses similitudes. Avec nous aussi Camille Bordenay, journaliste au Monde, qui signe son premier roman Sous leurs pas, les années, chez Robert Laffont. Le roman explore la fracture entre deux amies d'enfance, Jess, restée dans sa campagne iséroise, et Constance, devenue une star du journalisme à Paris. Leur histoire est celle de deux Frances, celle qui part et celle qui reste, qui se confrontent à leurs choix et à leurs rancœurs. Et ces deux Frances, on les retrouve aussi dans le livre de mon dernier invité, Paul Gasnier, qui publie La Collision chez Gallimard. Je précise qu'avec Paul Gasnier, on se connaît car on a travaillé ensemble. Mais si on ne se connaissait pas, je l'aurais invité quand même, car son livre le mérite. Il figure d'ailleurs dans la sélection du prix Goncourt. L'histoire commence le 6 juin 2012, quand sa mère est percutée à vélo par un jeune de 18 ans qui faisait une roue arrière sur une motocross non homologuée. Des années plus tard, l'auteur, devenu journaliste, rouvre le dossier judiciaire. La Collision est une enquête, le récit de deux destins qui n'auraient jamais dû se croiser dans une France éclatée et malade. Trois livres, trois voix, mais une même urgence donc. Comment écrire le drame? Comment transformer la douleur en récit pour en faire quelque chose de plus grand que soi? Nous en parlerons avec nos invités et nos libraires francophones, présents comme chaque semaine dans l'émission. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Justine Lévy, Camille Bordenay, Paul Gasnier, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Comment faut-il qualifier vos livres? Récits, romans, chroniques sociales, quel est le terme qui vous convient le mieux, Paul Gasnier?
Récit du réel et enquête littéraire. Donc récit, je trouve que ça le résume bien.
Camille Bordenay.
Roman, roman de réalisme social, proche peut-être du naturalisme, mais roman.
Et Justine Lévy?
Moi, je suis bien embêtée parce qu'il y a écrit roman, mais je n'avais pas vraiment réalisé avant. Et c'est plutôt de l'autofiction, même si je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est plus de l'autofiction.
Oui, ça veut dire quoi, autofiction? Parce que
c'est une sorte de récit de soi avec une élaboration littéraire, même si je n'aime pas utiliser pour moi le mot littéraire, mais voilà.
Vos livres à tous les trois s'ouvrent sur un point de rupture, un drame qui fait basculer la vie de vos personnages ou votre propre vie. Le deuil pour vous, Justine Lévy, l'homicide routier chez vous, Paul Gasnier, la rupture amicale et sociale chez Camille Bordenay. Est-ce que la littérature peut réparer quelque chose ou au contraire seulement constater la cassure, Camille Bordenay?
Oui, je pense que s'il y a un lieu de réconciliation au pluriel, réconciliation intime, réconciliation sociale, territoriale, amicale ou familiale, c'est la littérature.
Paul Gasnier?
Oui, vous avez répondu dans la présentation de l'émission, vous avez dit que c'est une manière dont on survit aux blessures, la littérature, et c'est exactement ça, c'est un procédé qui permet de transformer une effraction traumatique, en l'occurrence le deuil qui m'a rendu orphelin, en œuvre littéraire pour avancer dans la vie, et c'est ce petit miracle que permet l'écriture.
Et Justine Lévy, pourquoi avoir voulu écrire ce livre?
J'ai longtemps cru qu'il y avait une vertu curatrice au roman, et là je me suis rendu compte que non, que le chagrin n'est pas comme un noyau qu'on pourrait expulser comme ça, et qu'on ne se défait pas du chagrin, même si c'est vrai que c'est tentant, mais...
Alors ça sert à quoi d'écrire?
Eh bien je ne sais pas, peut-être que ça ne sert à rien, peut-être que ça sert à faire du bien au lecteur, mais moi en tout cas ça ne m'a pas fait du bien de retourner sur les vieux souvenirs, des souvenirs auxquels je ne pensais pas du tout et qui sont là maintenant tout le temps.
Paul Gasnier, ça vous a fait du bien?
Oui, alors je voulais juste rebondir. Neige Sino, à la fin de Triste Tigre, conclut sur un constat d'échec sur l'écriture. Elle dit que ça ne l'a pas du tout aidé. Elle dit ça après 200 pages d'un récit magnifique. Chacun son approche. Moi, il se trouve que ça m'a aidé, non pas forcément à pardonner le garçon qui a tué ma mère, mais en tout cas à tourner la page de la colère et de ce sentiment stérile qui me ramenait toujours à cet événement 13 ans plus tôt. Donc oui, je dois dire que l'écriture ne m'a pas sauvé, mais elle m'a aidé à sortir de l'emprise de cet événement.
Une autre dimension essentielle, un autre point commun qui traverse vos œuvres, c'est la question de la justice. Paul Gasnier, votre livre est une critique de la machine judiciaire et une réflexion sur la notion d'homicide routier. Justine Lévy, vous parlez d'une enquête sans fin pour rendre justice à la mémoire de votre mère. Et Camille Bordonnais, vous, vos personnages, Jess en tête, ressentent une profonde injustice sociale. Comment la littérature peut-elle se saisir du sentiment d'injustice, Camille Bordonnais? Et quelle différence avec le journalisme, puisque vous êtes journaliste?
Oui, moi, écrire, ça m'a aussi quelque part... Mes camarades disaient qu'ils ne voyaient pas de curation là-dedans. Moi, au contraire, c'est enfin l'endroit où j'ai eu l'impression qu'on pouvait exister par deux fois. Et l'écriture romanesque et la fiction est quand même née d'une grande frustration journalistique. Je pense que le journalisme moi je travaille en presse écrite et le royaume des faits, d'une certaine vérité par les faits, mais que le roman permet une vérité par les affects et les émotions. Il me semble que déplier des émotions sur la page permet vraiment d'accéder aux vérités intimes de chacun, aux complexités psychologiques, aux contradictions qui sommeillent en chacun de nous, en fait, et que je n'arrivais pas, et que je n'arrive toujours pas, et que je pense qu'on ne peut pas saisir le temps même d'une enquête approfondie et d'interview de plusieurs heures.
Où on s'en tient au fait.
Où on s'en tient au fait, voilà. Et où les émotions ne sont pas censées avoir trop leur place.
Pour vous, Paul Gasnier, est-ce que la littérature peut se saisir de ce sentiment d'injustice? Est-ce que ça a été votre cas?
Pas vraiment. La littérature, on pense qu'elle est, antidote au sentiment d'injustice, mais ce qu'elle permet, c'est de donner un sentiment de justesse, en tout cas, à défaut de répondre à l'injustice, parce que l'injustice d'avoir perdu sa mère dans des circonstances aussi invraisemblables sera toujours là, mais l'écriture, c'est une manière de consentir à l'absurde, de faire son cheminement vers l'amorphatie, comme on dit. Et non, la littérature ne comblera jamais le sentiment d'injustice. Voilà, le tribunal est passé par là, les réflexions personnelles sont passées par là, mais l'injustice ressentie ne sera jamais palliée par l'écriture.
Et vous, pour vous, Justine
Lévy? J'ai pas vraiment eu le sentiment d'une injustice. Bon, c'est très différent. Je peux en vouloir finalement à personne de la mort de ma mère et de la vie magnifique et toute petite qu'elle a eue. J'ai plutôt un sentiment de gâchis, mais que le livre n'a pas réussi à réparer. Je me pose toujours la question, maintenant encore, pourquoi, alors qu'elle avait tout, cette femme-là, pourquoi est-ce qu'elle a tout? Pourquoi elle a été attirée à ce point par la ruine? Voilà, en revanche, le sentiment du chagrin, oui, ça, j'ai pensé vraiment que ça allait me libérer de ça. Parce que quand on a du chagrin, on n'est pas soi, on est complètement dépossédé de soi. Et je me suis dit que j'allais me réapproprier peut-être même mon histoire. Parce qu'en fait, quand on écrit un récit ou un roman ou une autofiction, on met les choses en ordre, on met le monde en ordre, alors que le monde n'a pas d'ordre, il a pas de sens, en fait. Quand on ne comprend pas sa vie... On a l'impression de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Et moi, tout à coup, là, ça a remis les choses en ordre. Il y avait un début, un milieu, une fin que je choisissais. Ça, c'est génial.
Justine Lévy, Camille Bordonnais, Paul Gasnier. L'autre point commun de votre livre, c'est la question de l'héritage. Qu'est-ce qu'on garde des disparus, des proches, de ceux qui nous ont marqués? Qu'est-ce qu'on transmet? On se retrouve dans un instant pour en parler. Mais avant ça, on écoute Mira, Où vont les larmes?
Où vont les larmes que l'on... Couler, je sens, j'ai trouvé.
Vous écoutez Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie de Justine Lévy, Camille Bordonnet et Paul Gasnier. Justine Lévy, dans votre livre, il est question donc du lien à votre mère, de la difficulté aussi à se construire en tant qu'adulte après une enfance, j'allais dire anormale, mais vous la qualifieriez comment, vous, votre enfance ?
Pas enfantine, je crois que j'ai jamais été enfant et je crois que je commence à le devenir maintenant que j'ai eu 50 ans, je pense que ça vient. Enfin, il m'a fallu beaucoup de temps pour devenir enfant. Mais parce que quand j'étais petite, il n'y avait pas tellement d'enfants. C'est ce que je raconte dans le livre. Il y avait des adultes de moins bonne qualité que les autres adultes. Des petits, des mini-adultes, des mineurs, quoi. Mineurs. Et puis, j'ai pas, si l'enfance, c'est l'innocence, j'ai pas été enfant. J'ai compris des choses très vite, j'ai vu des choses très vite. Et
est-ce que ça vous a abîmé?
Non, ça ne m'a pas abîmée, mais ça m'a enlevé, ça m'a donné une petite maturité paradoxale, je dirais, et voilà, mais non, ça ne m'a pas abîmée.
Et si vous écrivez, c'est en partie grâce à ça ?
Ça, je ne saurais jamais pourquoi j'écris, pourquoi est-ce que je pense que si on sait répondre à la question, on ment. Pourquoi on écrit, pourquoi on sait ? Je pense que ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'écris.
En tout cas, vous écrivez une phrase magnifique à un moment. Je mets beaucoup d'énergie à essayer de ne pas te ressembler, maman. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette phrase ?
Elle signifie que je pense que j'ai signé une sorte de pacte absurde et obscur avec ma mère, qui est que j'ai décidé très tôt de ne pas être plus heureuse qu'elle, de ne pas la surclasser dans le bonheur, ni même dans les études. Moi, les gens, quand les gens me rencontrent, ils s'attendent à rencontrer une intellectuelle, alors que je suis tout sauf une intellectuelle. Je suis frivole, j'aime rire, etc. Et j'ai raté mes examens, ou parfois je ne suis pas allée aux examens quand j'étais jeune, et j'ai toujours décidé que je ne la surclasserai pas. Voilà, donc ne pas lui ressembler, c'est aussi ne pas me brûler comme elle s'est brûlée, ne pas... elle allait que vers les grands dangers, les choses qui fulgurantes, et moi j'aime la vie tiède.
Est-ce qu'on peut échapper, selon vous, au déterminisme ?
Oh, je souhaite pas échapper au déterminisme. Sauf en ce qui concerne peut-être la maternité. C'est vrai que ça, c'est plutôt un anti-modèle. Ma mère, même si j'ai reçu tout l'amour dont j'avais besoin, mais le reste était quand même un peu improvisé. Donc j'essaye au contraire d'être une mère présente, trop présente. Et je pense que d'ailleurs, à force de faire exactement le contraire de ce qu'a fait ma mère, je fais aussi mal, mais le contraire. Je pense que c'est pas du tout une bonne idée de vouloir faire exactement le contraire de quelqu'un.
Là, votre livre s'appelle Drôle de peine. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Rien de grave. J'ai l'impression que vous cherchez toujours un peu à atténuer le chagrin, la
douleur.
J'essaie
de pas alourdir ce qui est déjà lourd. C'est vrai que c'est... Et la vie n'est jamais toute rose ou toute noire. Enfin, bon, ça, c'est pas vrai. Elle peut être toute noire. Mais moi, la mienne, en tout cas, ma vie n'est jamais toute rose ou toute noire, c'est toujours un mélange des deux. Il y a du chagrin dans la joie, il y a de la joie dans la peine, tout est très mélangé, donc j'essaye d'être un peu nuancée.
Paul Gasnier, sur la question du déterminisme, c'est aussi le sujet de votre livre, notamment Saïd, le délinquant qui a tué votre mère. À quel point on peut échapper ou non à la dérive comme déterminisme quand on a perdu, comme Saïd, un frère charismatique, quand on est le produit aussi d'une faillite collective?
Oui, c'est tout le travail d'une vie, et lui est mu par ses déterminismes, mais autant que moi. Et l'histoire de la vie de Saïd, qui est à peu près mon âge, c'est celle d'un garçon qui n'a jamais su échapper au poids de ces déterminismes qui agissent comme une espèce de glaise ou de boue dans lesquelles ses pieds sont pris en permanence, et quand il arrive à s'en extraire, il retombe toujours dedans, et il n'arrive jamais à s'extraire complètement de ses déterminismes. C'est un des juges que j'ai rencontré pendant mon enquête qui me dit ça, et dit moi je juge surtout la capacité d'un individu à s'extraire de ses déterminismes. Et pour que ça marche, il faut une volonté de faire ce dont ce personnage était cruellement dépourvu.
C'est ce que j'allais dire, c'est que finalement le déterminisme aurait pu l'excuser, mais pas du tout.
Oui, c'est pas parce qu'on décortique les déterminismes qui agissent dans notre vie qu'on excuse un comportement. On l'explique. Excuser, expliquer, c'est pas la même chose.
Camille Bordonnet, dans votre livre, il est question aussi du poids de l'origine familiale. Le personnage de Constance a été, je cite, conditionné par des parents professeurs qui lui ont donné les ressources pour se barrer. Jess, au contraire, est issue d'un milieu où l'on reste et où les ambitions sont différentes.
Oui, j'ai aussi voulu questionner justement cette idée de est-ce qu'on peut s'extraire ou pas des déterminismes, et je pense que ce que tissent Jess et Constance, déjà par une amitié de circonstance, donc elles vont se construire ensemble parce que bah, elles ne l'ont pas choisi, parce qu'à la campagne, comme dans certains quartiers populaires ou quartiers bourgeois parisiens, on grandit avec les enfants qu'on a à côté de chez nous, et on se choisit pas forcément, ce qui peut créer des situations de contre-déterminisme par la force des lieux. Et donc elles vont se construire finalement l'une malgré l'autre, plus que
l'une avec l'autre.
Et tisser un récit commun fait de références générationnelles, de moments partagés qui sont des impensés. Et il me semble que ça, ces moments de juste d'être ensemble, cette fameuse expression un peu jargonnante de vivre ensemble que questionne beaucoup la société en ce moment, c'est une manière de contrarier les déterminismes. Alors qui après, souvent, nous ressaute à la figure et donc effectivement se pose à un moment la question de partir faire des études supérieures pour Constance, question qui ne se pose pas pour Jess.
Et pourquoi elle se pose pour l'une et pas pour l'autre ?
Eh bien parce que, évidemment, là on retrouve un certain déterminisme social de quand on est fils ou fille de prof, de notable, etc. On a plus souvent de facilité sur la scène scolaire parce qu'on est accompagné, parce que voilà. Donc Jess n'a pas été valorisée à ce niveau-là. Et en même
temps...
Vous
n'avez pas peur que des lecteurs en lisant ça, se disent ouais. Bon bah peut-être que pour moi c'est foutu, j'ai pas la chance d'avoir des parents profs.
Non, parce que tout ce que pose le roman justement, c'est ça veut dire quoi cette fameuse expression de aller plus loin, aller plus haut. Et quand on lit le roman, on se rend compte assez vite que peut-être que l'une est plus heureuse que l'autre, et c'est pas celle qu'on imagine. voilà, est-ce que ne va-t-on pas beaucoup plus haut en fait en restant et plus loin en restant prendre soin de son lieu de vie et des siens. Donc, en Jess, elle a le capital de l'amour, en fait. Constance, est-ce qu'elle va plus loin en allant se perdre dans son illusion de parvenir,
oui, dans l'ambition,
de réussite oui. scolaire, etc. Alors qu'au final, elle est très seule. Constance est vraiment le personnage ballotté qui cherche toujours une place qu'elle ne trouve pas. Constance ne trouve jamais sa place. Jess a une place et de l'amour autour d'elle.
Justine Lévy, je reviens à vous. Dans cette émission, on reçoit chaque semaine des libraires. Cette semaine, c'est Mike Viennot de la librairie Médiapol à Montréal qui vous a lu. Bonjour Mike.
Bonjour.
Vous dites avoir été déstabilisé et enchanté par votre lecture du livre de Justine Lévy.
Oui, enchanté par le ton. C'est écrit dans une langue précise, sensible, tendre même. Enchanté donc par cette écriture décomplexée qui raconte sans fioriture, mais avec une exactitude et un style distinct. Déstabilisé aussi car vous faites de la recherche de la mère perdue, une mère déjà perdue dès la naissance, une quête qui se révèle un besoin de vous découvrir vous-même, de vous apaiser. Cette poursuite de la mère morte, c'est pour vous, Justine Lévy, un besoin de cueillir toutes les mères multiples que vous n'avez pas pu connaître. C'est en retour mieux accepter la mère incomplète qu'elle avouait être. Il y a une tendresse débordante, une rage qui rampe dans certaines pages, cette rage de l'inachevé, cette rage de celle qui aurait voulu savoir avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour vous, je le sens, la rage est un état permanent que vous apprivoisez à grands coups de nostalgie. Parler de la mère est un geste courageux qui dénude, qui fragilise. Mais ici, parler à la mère devient un acte de bravoure, comme pour affronter un fantôme présent flottant dans une mer absente. Un geste qui vous habille de toutes les parcelles de souvenirs que vous venez cueillir ici et là pour vous en habiller. Un peu comme une grande couverture de maman qui, pour mieux la garder au chaud dans votre peine. J'ai trouvé une phrase très importante. Vous dites « Il y a des choses que je voudrais raconter comme si elles ne faisaient pas mal ». Je me suis arrêté sur cette phrase. Je l'ai sentie dans votre écriture comme un besoin d'anesthésier la douleur. Comme votre mère qui calmait ses folies par l'alcool et la drogue. Mais dans le cas présent, c'est l'écriture. C'est une adresse à la mère, profitant de son départ pour espérer être mieux écoutée. C'est aussi une magnifique déclaration d'amour, maladroite, parce que mal aimée, mais franche, parce que vous voulez éviter les détours que vous avez trop souvent appris à faire. Parfois, certains textes nous confrontent à nos réalités, nous, les lecteurs. Ici, dans mon cas, je me suis rapproché de vous, Justine Lévy, par les contours éblouissants des similitudes que j'ai ressenties entre votre vécu et mon passé.
Bah, disons que c'est une déclaration d'amour, ça, Justine Lévy.
Ouais, je suis très touchée.
C'est vrai qu'elle est belle, cette phrase. Il y a des choses que je voudrais raconter comme si elles ne faisaient pas mal.
Il y a des choses que je voudrais raconter comme si elles ne faisaient pas mal. Et il y a des choses que je... qu'on peut mourir de ne pas dire. Il y a des choses qu'on peut crever de garder en soi, qui vous étouffent. Voilà, je pense que quand on écrit quelque chose, il faut quand même aller fouiller là où ça cogne, là où ça saigne, et là où j'ai des métaphores de merde, pardon, mais il faut aller là où ça fait un peu mal, parce que sinon ça sert à rien. Ça veut pas dire que ça fait du bien après. Moi, je suis pas sûre que je vais mieux maintenant qu'avant d'écrire. Je suis pas sûre que retourner sur les traces de mes parents en Inde, ça m'a fait que du bien. Et je sais pas du tout si par exemple le refoulement, ça fait du bien ou ça fait du mal. C'est ça la vraie question au fond. Moi, je pense que ça fait pas que du mal, le refoulement.
Paul Gasnier, j'ai pensé à vous en fait en lisant cette phrase. Il y a des choses que je voudrais raconter comme si elles ne faisaient pas mal.
Oui, moi aussi. Et c'est vrai que c'est un peu la même démarche que vous, Justine Lévy. C'est-à-dire que je me suis replongé dans l'événement le plus difficile, douloureux, traumatique de ma vie. Enfin, je me suis plongé d'ailleurs, pas replongé, parce que c'est la première fois que je décortiquais comme ça cet accident à ce point-là, que je me plongeais dans le dossier d'instruction. Et c'est vrai que j'avais l'impression que ma vie avançait sous la férule de cet événement, sous son emprise. Et là, j'étais arrivé à un stade où j'avais besoin de me retourner vers cet accident et de lui dire, oh bah ok, maintenant je vais te prendre à bras le corps, je vais te maîtriser par les cornes pour bien te comprendre et avancer plus sereinement dans la vie. Donc c'est exactement ça. Parfois il faut se tourner vers ces événements qui font mal, même si on ne veut pas, mais tout simplement parce que c'est une nécessité.
On n'a pas le choix. Mike, vous aviez une question pour Justine Lévy.
Oui, raconter sa mère demande une suspension de la pudeur, je crois. Dans votre cas, il y a un va-et-vient constant entre les aveux et ce que vous retenez de dire. Comment vous avez réussi à gérer tout ça?
Je ne sais pas si la pudeur, c'est vraiment le mot. Ce qui me freine, c'est le mal qu'on peut faire aux autres ou pas. Voilà, donc il y a des choses dont j'avais décidé de... dont je sais que je ne parlerai pas pour ne pas blesser certaines personnes. Et puis en revanche, il y a aussi des gens... Je ne sais pas comment dire, si je les blesse, bah, tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à pas être des connards, voilà. Mais ce n'est pas une question de pudeur, c'est une question d'attention aux autres, voilà.
Merci Mike. Merci Justine Lévy, Paul Gasnier, Camille Bordonnet, on parlera justement de cette question de la pudeur, entre guillemets, quand on revient, la pudeur notamment quand on écrit de la non-fiction.
Un peu plus de minutes avant jamais. Ralenti, ralenti, on est trop près. Dernier mot sur la plage d'Acapulco. Tous les deux sous le même kimono. Un peu plus de minutes avant l'avion. Thank you.
C'était Flavien Berger, Brutalisme, et nous sommes toujours en compagnie de Justine Lévy, Camille Bordenais et Paul Gasnier. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, au livre, etc. Lilia Hassen.
Paul Gasnier, votre livre n'est pas un livre sur votre mère, vous l'avez dit. Vous ouvrez d'ailleurs avec une phrase de Virginie Despentes, cette passion qu'ont les riches pour l'histoire de leur petite famille. Est-ce que c'était une manière de dire tout de suite que ce n'était pas le projet ?
Oui, c'était aussi une manière de situer d'où je parlais. C'est une phrase que j'avais lue dans Cher Connard, qui m'avait fait beaucoup sourire, parce que c'est vrai que je remarquais que c'était toujours des bourgeois qui écrivaient sur l'histoire de leur petite famille, et c'était une démarche que je brocardais souvent avant de faire exactement la même chose avec ce livre. Et c'est aussi un clin d'œil à Virginie Despentes, qui est une autrice que j'adore, et qui tire son nom de plume des Pentes de la Croix-Rousse, qui est le quartier où se déroule La Collision, et qui est un personnage presque à part entière du livre. Virginie Despentes avait grandi, avait été étudiante sur les Pentes de la Croix-Rousse. Voilà, et je trouve que c'est un clin d'œil qui me faisait sourire.
Cette phrase, Camille Bordenais, j'imagine que vous êtes d'accord. La phrase de Virginie Despentes. Je répète la phrase, cette passion qu'ont les riches pour l'histoire de leur petite famille.
Oui, c'est une phrase bien sentie, effectivement, je n'accuserai pas les riches ou les bourgeois. Enfin, je pense qu'à partir du moment où il y a un besoin d'écriture, il est légitime.
Justine Lévy, cette phrase, cette passion qu'ont les riches pour l'histoire de leur petite famille, elle vous fait sourire ?
Oui, probablement. Probablement que c'est un luxe inouï. D'abord, c'est un luxe inouï d'être parfois déprimé. Quand on n'a pas le temps et qu'on doit... Voilà, il y a des gens qui n'ont pas ce luxe-là, se permettent d'être déprimés. Et puis la passion pour sa petite famille, bah ça je me rends pas compte si c'est les bourgeois. J'ai pas l'impression moi d'être une bourgeoise.
Mais comment on fait justement pour que un livre finalement, même votre livre, il dépasse complètement ça. C'est-à-dire que comment on fait pour atteindre une forme d'universel ?
Alors ça, j'en ai aucune idée comment on fait, mais je sais que souvent quand on commence à écrire un livre, on va à la chasse au trésor. Et moi j'ai voulu. Et souvent le trésor, c'est la généalogie. C'est souvent c'est comprendre d'où on vient, pourquoi on est là, essayer en tout cas. Alors ça prend des formes différentes. Moi je pense que si j'essayais d'écrire un roman d'aventure, j'y arriverais pas du tout. Il faut savoir aussi ce pourquoi on est plus doué. Ou pas, moi j'aurais aucun talent pour écrire une fiction totale. Donc voilà, je fais ce que je sais un peu mieux faire. Et peut-être que c'est bourgeois, mais je ne le prends pas comme une critique personnelle. En fait, j'ai vu que vous aviez beaucoup de... Vous étiez sur la pointe des pieds, mais moi je ne prends rien mal. Hein.
Non, mais c'est bien, c'est courageux. Paul Gasnier, on parlait tout à l'heure de pudeur, et c'est ce qui a touché précisément notre libraire, Benoît Autier, en studio avec nous. Bonjour Benoît.
Bonjour Lilia.
Vous êtes très heureux de rencontrer Paul Gasnier, je crois.
Bonjour Paul, je suis effectivement très content de vous croiser.
Et moi donc.
Et de pouvoir vous témoigner tout l'enthousiasme que j'ai eu à la lecture du texte. D'abord, quand j'ai ouvert le livre la première fois, je ne savais pas si c'était une fiction, un récit. Et très vite, j'ai pu voir que ce serait un récit d'un auteur déterminé qui cherchait à avoir un propos intelligible, clair, qui ne tomberait pas dans le sentimentalisme, et qui éviterait, j'ai eu l'impression, dès les premières pages, une idée de dogmatisme orienté qui peut être l'écueil des enquêtes, je trouve, qu'on peut mener dans ces cas-là. On voit poindre et votre douleur et votre colère, elle est légitime de toute façon, et je pense surtout humaine. Et néanmoins, vous gardez en tête de rester pudique en permanence, d'essayer d'écarter ce sentiment-là, parce qu'il pourrait nuire à la qualité de votre raisonnement, et cette retenue que je trouve assez remarquable. Je me suis demandé si c'était votre habitude journalistique qui vous la permettait ou non, mais je pense que c'était surtout un choix désireux.
Bah, on va poser la question, Benoît Autier, à Paul Gasnier.
Absolument, j'étais conscient de cet écueil dès le début de mon projet d'écriture. Et c'est vrai que je partais du principe qu'une écriture dépassionnée et à l'os était plus crédible et plus convaincante que si j'avais écrit un monument de douleur et de pathos et un panégyrique maladroit de ma mère. Et c'est vraiment ce que je voulais éviter, c'était m'en tenir aux faits. C'est vrai qu'être journaliste, ça donne une longueur d'avance quand on s'intéresse à un fait divers et qu'on a une déformation professionnelle. Et je m'en suis tenu aux faits, à la description, à la décortication de cette collision que j'ai essayé d'aborder le plus froidement possible, mais sans éluder les sentiments et toutes les étapes émotionnelles que j'ai traversées depuis.
Mais moi, je trouve pas que ce soit froid. Moi, je trouve qu'il y a une écriture et que cette écriture, elle est belle. Benoît Autier, je vous laisse reprendre.
Ben, je suis assez d'accord, mais effectivement, vous maintenez une distance que je trouve plutôt salutaire dans le récit. Et en même temps, vous arrivez à nous plonger in vivo dans ce que vous ressentez. Et manier les deux ensemble, c'est quand même un peu casse-gueule, pour dire les choses simplement. Et vous y arrivez, donc déjà, ne pas faire de faux pas dans ces cas-là, je trouve que c'est fort. C'est quand même votre premier texte. Je pense qu'on doit un peu paniquer en se demandant si on va y arriver. Vous y réussissez très bien. Pas de larmoiement, je trouve que c'est quand même assez heureux. Votre idée, je pense, et vous allez nous en parler, je pense, c'est de questionner le monde, d'interroger une époque polluée par des problèmes qui traversent la société depuis longtemps. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important pour vous. Alors effectivement, on se doute que le récit a dû beaucoup vous coûter, vous nous l'avez dit ces quelques minutes, et remuer tous ces souvenirs-là, affronter ces démons, c'est quand même une chose difficile. Je trouve que vous l'évoquez, vous l'effleurez, mais vous arrivez constamment à résister à cette tentation. Et je tenais à vous féliciter parce que je me dis que ça doit vraiment être très compliqué. Et grâce à vous, à la lecture du texte, on finit par se questionner sur les faits divers et à se dire que peut-être qu'il ne faut pas succomber, comme on le fait souvent, en tant que victime consentante, en tendant l'oreille à ceux qui veulent profiter de ces atrocités-là.
Oui, absolument. La particularité de ce fait divers, puisque c'est l'expression consacrée, c'est que le deuil qui m'accompagne depuis plus de 10 ans a été pollué, contaminé par les discours de polarisation politique et médiatique du pays. La particularité aussi de ce fait divers, c'est que c'est de la délinquance, c'est de la violence urbaine, c'est de l'insécurité, et ce sont des sujets qui sont captés par l'extrême droite depuis des années. Et parler de ces sujets-là, c'était une manière pour moi de montrer qu'on peut les aborder avec une autre grille de lecture, avec plus de douceur, plus d'humanité. Et c'était aussi ça, le projet de ce livre, c'était d'aller sur ces sujets-là qui ne sont pas les miens à l'origine, pour y planter mon drapeau et montrer qu'on peut les aborder autrement que par l'idéologie et le rejet de l'autre.
Donc, plus qu'un récit d'autofiction, effectivement, vous pourriez dire que c'est un livre politique que vous avez écrit.
Oui, je me suis toujours méfié de l'adage selon lequel l'intime est toujours politique. Et en fait, c'est vrai. Peut-être que c'est vrai, absolument. Et c'est vrai que ma colère intime, elle avait une charge politique explosive, parce que je voyais en tant que journaliste la manière dont l'extrême droite se saisissait de faits divers similaires, où des Arabes tuaient des Français blancs, en gros. Et c'est vrai que l'accident qui a tué ma mère, c'est exactement cela. Mmh. Et je ne suis pas devenu d'extrême droite, j'aurais pu le devenir. Et c'est ça aussi que je raconte dans ce livre, c'est la capacité qu'on a à aborder un sujet qui, à première vue, semble manichéen, avec des pincettes dont nos responsables politiques sont dépourvus.
Mais justement, est-ce que c'est pas un livre impossible, dans le sens où... est-ce qu'on peut travailler un cliché, justement ce tel cliché de dire c'est un Arabe qui tue une Française, sans tomber soi-même dans le cliché?
Oui, je parlais de la longueur d'avance que me donne ma qualité de journaliste, mais j'ai une autre longueur d'avance, c'est que j'ai une éducation catholique. Et ça, c'est pas complètement étranger à ce projet d'écriture, je pense, parce que ce qui infuse dans ces 170 pages, c'est la main que je tends vers la personne que j'ai le plus honni et détesté depuis plus de 10 ans, ce jeune délinquant qui a tué ma mère.
D'ailleurs, vous terminez avec lui. Le livre se termine.
Oui, les derniers mots
sont pour lui.
Sont pour lui, absolument.
Ce que j'ai trouvé très beau.
Et ça, je m'en suis rendu compte après avoir rendu le manuscrit. Donc il n'y avait aucun calcul derrière.
Alors il y a quand même un passage qui illustre assez bien la ligne de crête sur laquelle se trouve votre livre. Vous l'avez bien dit, l'histoire que vous racontez aux yeux de l'extrême droite, c'est l'histoire d'un jeune délinquant arabe qui percute une mère de famille, donc ce jeune délinquant Saïd, qui percute une mère de famille française sans histoire. En tout cas, c'est comme ça que ça aurait pu être récupéré, comme dans beaucoup d'autres faits divers. Et vous voulez en faire autre chose. Et pourtant, j'ai été surprise par un passage en particulier. En même temps, je trouve que c'est intéressant qu'on en parle. Et donc, je vous propose de nous le lire.
Ce Saïd, je l'avais croisé des dizaines de fois. Il ressemblait à tous ces jeunes types qui zonent dans le quartier de la Guillotière, à la gare du Nord, à la sortie d'une gare de province. Il avait la gueule de ceux qui finissent toujours chez le CPE. C'est lui qui m'avait collé une droite pour me voler mon téléphone dans une rue de Paris quand j'étais étudiant. C'est lui qui tenait entre ses doigts une fin de joint et une bouteille d'oasis par le goulot, agitée au rythme d'une enceinte portative, provoquant l'exaspération mutique des passants. C'est lui surtout qui servait d'épouvantail et de tiroir-caisse idéologique à toute une partie de la classe politique.
En fait, je me suis dit, en lisant ce passage, en fait, on voit exactement à quoi vous faites référence. mais en même temps, c'est des phrases, enfin, c'est des périphrases. Dans votre explication, vous l'avez dit très clairement, c'est ce qui aurait pu être récupéré par l'extrême droite, à savoir un arabe qui tue une française. Et pourtant, le mot arabe est complètement absent du livre. Et donc, ma question est la suivante, est-ce que c'était un mot interdit ?
Intéressant. Non, c'était pas un mot interdit, parce que d'ailleurs, je le définis comme ça, mais par la bouche des personnalités d'extrême droite. Non, ce que j'interroge dans le livre, c'est la figure du délinquant maghrébin qui est devenue une figure archétypale qui hystérise le débat public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les débats médiatiques, on en parle toujours, que ce soit à chaque lendemain de faits divers ou à chaque lendemain de victoire du PSG ou d'émeutes urbaines. C'est toujours cette figure idéale typique du délinquant maghrébin. Et c'est cette figure-là que j'ai essayé d'humaniser dans ce livre, non pas pour le pardonner encore une fois, mais pour montrer que les gens ne sont jamais des archétypes.
En fait, vous auriez pu vous protéger, et je pense que c'est effectivement par la fiction, et quelque part, c'est courageux d'être allé sur cette ligne de crête-là. Parce qu'effectivement, c'est une ligne qui est plutôt aujourd'hui confisquée. Par une classe politique de droite, voire d'extrême droite. Vous aviez conscience de ce à quoi vous pouviez vous exposer ?
Oui, absolument, surtout dans une époque aussi polarisée que la nôtre, où on a des extrêmes qui nous tirent par les deux manches, c'est-à-dire soit vers la complaisance et la culture de l'excuse, soit vers la haine et le rejet de l'autre. Et c'est vrai que la particularité des extrêmes, c'est qu'ils veulent nous contraindre à analyser ces événements avec un filtre permanent, c'est-à-dire un filtre qui dilue les zones grises et il nous force à les voir uniquement en noir ou en blanc. Et la littérature, Camille Bordonnet parlait de royaume de la littérature, le royaume de la littérature permet justement de développer des nuances infinies de gris. Et c'est pas une démission de la pensée, au contraire, c'est une quête de justesse et de douceur. Et ça, c'est une quête que ne connaissent pas du tout les discours politiques.
Et comment on sort d'une enquête comme celle-ci ? Parce que malgré tout, même si moi je peux entendre que c'est journalistique, que vous avez travaillé sur les faits, ça reste quand même une quête intime. Et qu'est-ce que ce livre vous a appris ?
Ce que ce livre a permis, c'est qu'il m'a permis de mieux maîtriser l'événement et de mieux maîtriser le tueur. C'est-à-dire qu'en écrivant, je me rendais compte que je ne savais rien de lui, que je ne savais rien de cette collision. Et pendant les 2 années que m'ont pris l'écriture de ce livre, j'ai déplié cette collision. J'y suis allé avec mon baudrier et ma lampe de spéléologue pour en éclairer les moindres anfractuosités. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à mieux connaître cet événement, à être allé au marteau-piqueur sur le parcours de ce jeune garçon. Et le fait d'en savoir plus sur lui, d'en savoir plus sur sa famille, d'avoir mieux compris les différentes étapes qui ont jalonné sa dérive personnelle, qui ont conduit à cette collision, ça m'a permis paradoxalement non pas de l'excuser ou d'atténuer complètement la colère,
mais de lui donner un sens quelque part aussi.
Oui, je ne sais pas si j'ai réussi à lui donner un sens. En tout cas, j'ai vraiment l'impression d'avoir franchi une étape et de pouvoir aujourd'hui enfin penser à cet événement avec de la douceur. Vous savez, depuis plus de 10 ans, mon esprit était complètement sclérosé par cet événement. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à réfléchir...
Est-ce que ce livre vous a changé, personnellement ?
Oui, en cela que j'arrive à vivre en pensant à cet événement sur la colère tripale qu'exigeaient les temps modernes.
En tout cas, c'est un livre extrêmement touchant et très bien écrit, je le disais. Merci Paul Gasnier. Quand on revient, on parlera de votre livre, à vous Camille Bordonnet. Mais d'abord, on écoute Yoa, la favorite.
Portez devant, je vous rejoins. Fut d'ici mes rêves me paraissent si loin. Loin de moi l'idée d'en refaire. Je construis des châteaux de poussière. J'aurai la maison sur la plage. L'intelligence en héritage. J'attendrai plus comme une enfant. Je n'ai pas écrit la suite comme si des dieux j'étais la favorite. Oh.
Écoutez, au livre, etc. C'est maintenant l'heure du conseil lecture de la semaine.
Au livre, etc. Lilia Hassen.
Et cette semaine, c'est mon conseil lecture, et c'est donc votre livre, Camille Bordenais, Sous leurs pas, les années, publié chez Robert Laffont. Un livre construit autour de la relation brisée entre deux amis d'enfance, Jess et Constance, qui incarnent deux France. Jess qui vit dans une région rurale de l'Isère, et Constance qui, elle, est partie à Paris pour devenir journaliste et qui revient. Je vous laisse nous lire un petit extrait, politique aussi, sur le personnage de Constance et à travers elle la manière dont les journalistes parlent du monde rural.
Le pire, c'est que Constance croit vraiment sonder l'opinion des Français. La France périphérique, la diagonale du vide, les vrais gens, comme elle dit. Bouffonne. Au moins, elle reconnaît qu'elle est passée du côté des fausses personnes, le cul vissé dans son studio télé, par-dessus le pays, derrière son miroir sans teint, à regarder les gens d'en bas se débattre avec l'existence, à disséquer leur mode de vie ainsi de rats de laboratoire, et leurs pavillons, et leurs chaudières au fioul, et leurs barbecues, et leurs vieux diesels, et leurs impayés. Non mais franchement, est-ce qu'on se mêle de comment ils vivent entre eux, là-haut, intramoulures, tout à leurs beaux soucis d'eux-mêmes? Est-ce qu'on se permet de les traiter d'assistés sur télécommande avec leur Uber machin et leur visio-truc? Genre, ça vote à gauche, ça vante l'ouverture, le métissage. Ça vante et ça évite, surtout. Ça l'évite aussi.
Moi, j'ai adoré ce passage. Justine Lévy, c'est un beau passage, non? Je vous vois sourire.
Non, mais je vous souris parce que c'est génial, c'est féroce.
Oui,
c'est
ils aimaient bien la férocité dans l'écriture, Justine Lévy. Oui. Votre démarche d'écriture, Camille Bordenais, je la vois comme une volonté de redonner aussi de la complexité et de la dignité à une France rurale souvent simplifiée à l'extrême. C'est quelque chose qui vous agace?
Oui, absolument. Et donc, selon l'expression un peu consacrée, je m'inscris en tout cas dans l'idée de donner une voix à celles et ceux qui n'en ont pas. C'est une phrase un petit peu cliché, mais en même temps qui est tellement dans laquelle je me retrouve tellement. Voilà, certaines écrivaines disent qu'elles écrivent pour venger leur race.
Annie Ernaux,
voilà. Je n'écris pas pour venger quelque chose, puisque je m'estime être moi-même plutôt issue du... Enfin, être plutôt privilégiée, voilà. Mais en tout cas, j'écris vraiment pour passer une parole et une oralité aussi, et une langue que je trouve magnifique et méprisée, qui est une langue qui est en partie la mienne. Donc, de la même manière que cette histoire essaie de poser les questions des réconciliations, j'ai aussi essayé d'avoir une écriture qui réconcilie dans le style des langues diverses qui me composent, c'est-à-dire que je suis faite aussi bien du rap que j'écoute en intraveineuse et de formules très qu'on peut dire vulgaires ou très populaires, et c'est cette oralité,
ça fait partie de vous,
elle fait partie de moi au même. Donc par exemple, je pense, il est très très courant que je me lève en traitant mon réveil de bouffon, de charreau,
ou vous l'écrivez en plus.
Voilà, je pense comme ça, et de la même manière que je suis infusée d'images singulières et de déflagrations lexicales qui sont le fruit de mes lectures multiples.
Mais est-ce que les journalistes aujourd'hui arrivent à parler du monde rural ? Est-ce que les romanciers arrivent à parler du monde rural ? C'est ce que vous essayez de faire, mais on a l'impression qu'à chaque fois, c'est une sorte d'accumulation de clichés.
Je crois que en s'efforçant de le comprendre, oui, on peut réussir à en parler. En tout cas, c'est...
Est-ce que dès qu'on le quitte, on n'est pas dans l'incapacité de le comprendre ?
C'est une vraie question. Est-ce qu'on le quitte vraiment à partir du moment où il continue déjà de vivre en nous, et où on y est. Enfin, moi, je vis plutôt la littérature et ma démarche comme un trait d'union permanent. Je me sens plus vivre sur ce fil à haute tension qui relie les territoires qu'habiter. D'ailleurs, je déteste l'expression de la ruralité.
Les territoires aussi, non ?
Les territoires, en région, en province, je pense que ce sont des expressions contreplaquées qui sont très, très urbano-centrées, en fait, qui sont des constructions très jargonnantes. Moi, je me dis aussi bien campagnarde, et j'emploie le mot campagnarde.
Ça, c'est pas, comme Marie-Hélène Lafon, dont vous parlez aussi.
Oui, Marie-Hélène Lafon m'a vraiment... Les littératures qui m'ont infusé, c'est des littératures populaires et rurales. C'est Marie-Hélène Lafon, c'est Nicolas Mathieu, c'est Sylvia Avallon, et c'est aux États-Unis John Fante, Russell Banks, voilà, qui vraiment sont eux-mêmes d'ailleurs dans cet entre-deux qui est plutôt un trait d'union.
Elle parle, Marie-Hélène Lafon, d'attachement et d'arrachement.
C'est ça, c'est la première d'ailleurs. Je cite cette citation magnifique que j'aime beaucoup, dans laquelle je me retrouve vraiment. Et je pense que c'est justement ce trait d'union est déjà en soi une réconciliation qui permet d'éviter les assignations, et donc d'éviter la dichotomie très binaire, c'est tout l'objet de ce roman, entre urbain et rural, entre classe populaire et classe bourgeoise. Je pense qu'en fait, on est beaucoup plus nombreux à être une Macédoine de tous ces de goûts très divers. Moi, je m'estime à la fois lettré et beauf. J'essaie de réconcilier Balzac et Tupac.
Ça, c'est ce que le roman permet.
Et vraiment, voilà, l'espace de la littérature me semble être le seul qui permette de consigner dans une même page et dans une même phrase
tous ces mouvements
qui sont pas contradictoires, en fait, qui cohabitent. Et le journalisme a c'est là où c'est plus compliqué. Parce qu'il ne permet pas de creuser justement cette complexité des cohabitations, je pense, permet moins, déjà parce qu'il ne cible pas les mêmes lecteurs. Moi, je travaille au Monde, je suis tout à fait consciente de la catégorie sociale du lectorat qui lit mes articles. Et donc, en écrivant un roman, je pense qu'on vise beaucoup plus large dans possibilité de toucher à l'universel.
Voilà. En tout cas, c'est le cas de celui-là. Et puis, avant de se quitter, je conseille moi aussi les livres de Marie-Hélène Lafon, Histoire du fils notamment, et les vôtres à tous les trois. Justine Lévy avec Une drôle de peine, publié chez Stock, un roman sensible dans lequel la narratrice retourne dans les décombres d'une enfance chaotique pour reconstituer le visage d'une mère sublime et autodestructrice. J'ai été franchement émue. Tout comme à la lecture de votre livre, Paul Gasnier, La collision chez Gallimard, pour lequel je me suis dit en le refermant que votre mère serait franchement fière de vous. C'est un texte pudique. À votre image quand on vous connaît. Et enfin Camus Bordenet, donc Sous leurs pas les années, publié chez Robert Laffont, un texte enlevé, énergique, engagé. Et ça fait du bien de parler un peu différemment de la ruralité. Merci à tous les trois pour ça donc. Et merci aux libraires du jour, Benoît Autier et Mike Viennot. Je rappelle que cette émission est coproduite par la RTS, la RTBF et Radio-Canada. Un mot enfin pour mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Jérôme Ragano à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.